Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 4. Je reçois Hélène, qui habite au Japon et accompagne les Tokyoïtes dans leur transition écologique personnelle de manière positive et heureuse. Elle nous raconte ses prises de conscience lors d'un long trajet en transsibérien et son engagement pour le voyage responsable avec son podcast Voyageurs de demain. Bonne écoute.
Bonjour Hélène.
Bonjour à toi.
Hélène, tu as 34 ans, tu es ingénieure de formation. Tu as quitté la France pour l'Angleterre très rapidement à la fin de tes études pour rejoindre Procter & Gamble et travailler sur le packaging des parfums. Et puis en 2018, tu as décidé de changer de continent avec ta moitié pour partir en Asie au moment où on te proposait de revenir travailler en France. Et c'est là que tu as opéré un virage professionnel puisque tu t'es lancé dans le podcast autour de la thématique du voyage responsable. Et depuis plus récemment, tu t'es donné pour objectif d'aider les gens installés au Japon à accélérer leur transition écologique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ce que tu fais aujourd'hui dans la vie?
Ça fait un an et demi que j'habite à Tokyo. Et en fait, à la base, je suis passionnée par l'Asie. Et en fait, on avait eu l'occasion avec mon mari de vivre en Chine quelques mois quand on était étudiant. Et on avait toujours eu cette envie de revenir en Asie. Et donc c'est un peu ça qui nous a amené au final au Japon où on est aujourd'hui. Je sais pas si tu veux qu'on évoque en fait dès maintenant mon changement de carrière.
Oui, bah tu peux nous dire oui effectivement ce que tu fais aujourd'hui, ton podcast et puis ton projet de transition écologique au Japon.
Ok. Alors en fait, à la base, donc comme tu disais, moi je travaille dans le packaging. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon entreprise s'est fait racheter en 2017 ou 2016, je sais plus à force. Et en fait, il y a eu pas mal de restructurations à ce moment-là. Ce qui a commencé en fait à planter une petite graine en fait dans ma tête en me posant la question de qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, de ma carrière. Est-ce que j'avais vraiment envie de poursuivre une carrière dans l'entreprise, sachant que je me voyais pas forcément évoluer à très très haut niveau parce que j'ai un caractère qui, je pense, était pas forcément compatible avec ce genre de poste. Et donc ça a commencé un peu à cogiter pour moi à ce moment-là. Et puis à côté de ça, en fait, ça me disait pas forcément de revenir en France. J'avais envie d'aventure. C'est ce qui m'a amené en fait à partir au Japon. Et en fait, au même moment, en fait, je me suis dit, en fait, je suis en train de remettre en question ma vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Quel sens je veux lui donner? En fait, on a fait un voyage pour venir au Japon. On est allé en transsibérien là-bas, et en fait pendant le voyage j'ai pu voir vraiment l'impact du tourisme en fait sur l'environnement. Peut-être que d'habitude on aime beaucoup le voyage avec mon mari et on faisait plus des voyages courts une fois par an, et j'avais pas forcément vu autant ce côté-là en fait, là parce qu'on prenait notre temps, on était dans des endroits peut-être un peu plus reculés. Et on est retourné en Chine où on avait habité un petit peu quand on était étudiant, et on a vu la différence en fait avec le niveau de vie en Chine qui a énormément augmenté, le tourisme en interne qui s'est beaucoup développé, des habitudes de vie de surconsommation à l'occidental qui sont très répandues, et du coup des paysages qui sont assaillis et détériorés en fait notamment par les déchets. Donc ça a fait un premier choc pour moi.
Pendant ton voyage en transsibérien, qu'est-ce qui t'a choqué, enfin, sur l'impact du tourisme?
Ce qui m'a choqué, c'était déjà, comme je te le mentionnais, le côté déchets et dégradation en fait, et même ça devenait en fait certains endroits qui étaient, nous ce qu'on voulait voir, c'était des villages de minorités. C'est devenu des Disneyland un peu. Donc, ils ont tout bien retapé. Tu as beaucoup de boutiques de souvenirs. Et en fait, tout le côté un peu authentique de la culture de ces minorités qui est un peu mis en spectacle, en fait. Pas juste pour les... Enfin, plus pour les, je dirais, les touristes pardon, internes. Pas forcément pour les étrangers, mais... et du coup, ça m'a assez choquée. Donc, cet aspect-là. Et oui, voilà, et l'impact que tu peux avoir, du coup, quand tu es à la fois écologique et aussi social, en fait, en tant que touriste, quoi. Comment tu crées toute une économie autour de ça. C'est ça qui m'a un peu frappée, on va dire.
Ouais. Et donc, vous êtes retournée en Chine, et là, pareil... Tu as vu sur l'impact du tourisme et puis l'évolution de la Chine. Et c'est ce qui t'a donné l'idée de vouloir parler du tourisme.
Mmh. Ouais, du coup, j'évoquais le voyage en Transsibérie. En fait, on a traversé Russie, Mongolie et Chine. En fait. C'est pour ça que je t'évoquais la Chine en particulier. Mais ouais, c'est vraiment ce voyage-là qui m'a fait commencer à remettre en question ma manière de voyager, même si à la base on n'est pas des voyageurs, tu sais, à aller dans les hôtels de luxe ou tu vois, faire nécessairement prendre l'avion tous les week-ends. On n'était pas ce genre de voyageurs-là, mais quand même. Et donc en fait, j'ai eu envie de lancer en fait un podcast sur ce sujet-là parce que moi, c'est un format qui m'a énormément nourrie dans mes réflexions. Donc, comme je te disais, donc, quand j'ai commencé à partir de mon boulot, c'était un peu aussi une remise en question de mon mode de vie, du début de ma transition écologique. Et les podcasts m'ont vachement nourrie par rapport à ça. Et moi, j'ai cherché en fait un petit peu des ressources pour justement me questionner, m'inspirer sur ce thème du voyage responsable, et en fait j'ai pas trouvé énormément de choses. En fait, il y a beaucoup de podcasts sur le voyage avec parfois des témoignages de personnes qui voyagent autrement, mais pas tant que ça en fait. Et donc c'est pour ça en fait je me suis dit, ben moi ça va me permettre de réfléchir, tu vois, et en même temps, ben pourquoi pas le partager avec d'autres personnes et faire changer un peu la vision du voyage, parce que aujourd'hui t'as un peu ce côté le voyage, c'est cool, genre t'es allé au Pérou, t'es allé en Thaïlande, enfin tu reviens un peu, t'es là, limite à te vanter, tu vois, devant tes collègues, tout ça. Et en fait, un peu remettre en question un peu cette vision-là et cette consommation-là qu'on a du voyage, en fait.
Oui, et d'ailleurs, c'est même pas je suis allé au Pérou ou je suis allé en Chine, c'est ah ouais, j'ai fait le Pérou, j'ai fait la Chine.
C'est trop ça.
Donc ok, cet objectif, remettre le voyage dans une autre perspective et lui donner un nouveau sens.
Ouais, c'est ça. Et pourquoi on voyage en fait, dans un premier lieu, quoi. Est-ce que c'est pour fuir un quotidien qui ne convient pas? Est-ce que c'est pour découvrir une culture? Dans ce cas-là, c'est tout à fait louable. Mais est-ce que 15 jours comme ça, à l'arrache, entre guillemets, pour découvrir vraiment une culture, est-ce que c'est le bon moyen de le faire? Tu vois, genre, c'est un peu cette idée, quoi.
Ok, génial. Et ça fait donc un an et demi que tu fais ça et tu continues toujours à le faire?
Ah, ça fait un an, ouais, que j'ai juin dernier que j'ai lancé ce projet-là officiellement. Et je continue toujours à le faire à mon rythme, et c'est à chaque fois des belles rencontres avec mes invités, donc c'est super chouette avec une communauté vraiment sympathique et bienveillante.
Et c'est quelque chose qui te permet de vivre? Tu arrives à en vivre de ce podcast ou...
Eh ben non. au départ, tu vois, je m'étais posé un peu la question de qu'est-ce que je pourrais peut-être faire avec ce podcast-là. Peut-être, tu vois, genre fédérer une communauté et peut-être faire autre chose autour. Au final, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué. Les projets que j'avais en tête, en fait, ça collait pas forcément avec mes valeurs. En fait, par exemple, j'avais cette idée connectée au podcast de faire, par exemple, une marketplace de produits zéro déchet, mais locaux, donc pour encourager les petites sociétés locales plutôt que d'avoir que les gens achètent sur Amazon. Mais
ouais,
je m'étais dit, tu vois, le problème avec toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, t'encourages la consommation, et même si c'est de la consommation d'objets zéro déchet, c'est quand même encourager à la consommation. Donc, tu vois, au fur et à mesure que j'avançais dans mes réflexions sur la transition, en fait, je tuais moi-même les projets que j'avais en tête parce que, en fait, ça collait plus avec là où j'en étais au fur et à mesure que j'avançais. Donc, ça a été un peu compliqué. Pour être honnête avec toi, l'année dernière, pendant, ouais, ça fait un an et demi, c'était une période assez difficile pour moi, dans le sens où c'était beaucoup de remise en question de mes valeurs personnelles, de ce que je voulais faire dans la vie. Et au final, c'est ça qui m'a amené à développer l'autre projet dont tu as parlé rapidement. Et pour revenir avec le podcast, peut-être que je regardais en fait récemment, peut-être que je ferai un Patreon plus sous forme de donation avec des petites contreparties, tu vois, plus dans ce sens-là que vraiment en faire une monétisation comme ça.
Avec de la publicité ou autre type. Donc plus du financement participatif et Patreon qui est un réseau social, c'est ça hein
Patreon en fait, alors je saurais pas exactement te dire comment tu le définis, mais c'est une plateforme où tu peux faire des dons en fait à des créateurs, des artistes, des créateurs de contenu. Et souvent ce que les gens font, donc c'est soit tu donnes juste par exemple 2 €. En fait, tu donnes peut-être par exemple 10 € et la personne va te donner, par exemple, si c'est un illustrateur, il va te donner une illustration en échange ou te donner accès à une vidéo. C'est un peu comme du mécénat en fait moderne, on va dire.
D'accord. Et pour les petits créateurs.
Pas mal, ouais. C'est plus ça, ouais. Les petits créateurs de contenu, artistes. Il y a beaucoup les illustrateurs. Je crois que c'est quelque chose qu'ils utilisent pas mal comme plateforme.
D'accord, c'est vrai que moi je suis un peu plus familier avec Tipeee, qu'utilise beaucoup. D'accord, c'est la même chose que Tipeee, ok.
Mmh. Faudrait que je regarde Tipeee d'ailleurs.
Et alors donc ça t'a amené à ton deuxième projet que t'as développé au Japon. On pourra, parle-nous un petit peu de ce deuxième projet, on pourra revenir ensuite sur le cheminement intérieur qui t'a conduit à ça.
Ouais. Ouais. Du coup, en fait, ce projet-là, il est né d'un challenge personnel que j'ai rencontré, en fait. Comme je te disais, donc, quand je suis arrivée au Japon, remise en question de mon mode de vie. Et puis, du coup, tu te mets à chercher, OK, où est-ce que je peux essayer d'acheter certaines choses en vrac? Où est-ce que je peux acheter du bio? Et en fait, tu vas dans les supermarchés normaux, les endroits classiques que tu connais, et en fait, tout est super emballé au Japon, en fait. Parce que c'est un peu vu comme un signe d'hygiène, tout ça. Et du coup, en fait, avec la barrière de la langue en plus de ça, c'était pas évident au départ de trouver les solutions. Donc petit à petit, et même au fur et à mesure, parce qu'on faisait des cours de japonais, que notre japonais s'améliorait, j'ai trouvé des solutions, des choses et tout. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, ça se trouve, il y a d'autres personnes en fait qui ont ces problématiques également, en fait, et qui seraient intéressés pour y avoir accès. Et en fait, quand je suis arrivée au Japon, je me suis rapprochée d'une association française qui s'appelle Femmes Actives Japon, un réseau, et puis j'ai échangé avec quelques membres sur ça. Et en fait, j'ai proposé de faire un peu un atelier pour... faire de la sensibilisation à différentes thématiques et aussi apporter en fait des solutions concrètes pour les personnes en fait de la communauté. Et en fait, ça a plutôt pas mal marché. Les gens étaient vraiment intéressés, engagés. Il y avait des gens qui avaient un mode de vie très responsable en France, qui se sont retrouvés au Japon et qui étaient extrêmement frustrés en fait de pas retrouver des solutions. Donc, au final, ça m'a permis de voir que le concept pouvait peut-être plaire.
Voilà. T'as vu qu'il y avait un vrai besoin sur place et que tu n'étais pas seule dans cette situation à galérer pour trouver des produits.
C'est ça.
C'est une situation que j'ai connue aussi au Vietnam. Mm. Donc je comprends tout à fait où tu mets beaucoup de mois à trouver finalement les solutions qui existent, mais qui sont un peu plus cachées.
C'est ça, exactement.
Et aujourd'hui, ça prend quelle forme
Mon projet ?
Ce sont des ateliers ? Oui, tout à
ouais.
fait.
Alors moi, l'optique, c'est d'avoir un côté assez holistique dans l'approche. Donc, ce n'est pas juste le zéro déchet, en fait. C'est vraiment réfléchir à notre impact qu'on peut avoir. Et donc, ça se présente sous forme de 5 ateliers dans un premier temps. Et pour aborder 5 premiers thèmes. Donc, le premier thème, c'est introduire et expliquer un petit peu le changement climatique et donner des clés aussi pour tout ce qui est éco-anxiété. Le deuxième thème, c'est plus tout ce qui est autour de la nutrition, le bio, le vrac, tout ça. Le local aussi. Le troisième thème, c'est plus regarder au niveau de la gestion des déchets au Japon, les problématiques du microplastique, tout ça.
Je suis allé plusieurs fois au Japon et on les voit très, très sérieux par rapport à la gestion des déchets. Il y a beaucoup de poubelles différentes qui correspondent à des différents types de déchets. Et par exemple, on trouve rarement des poubelles dans la rue. Ouais. Enfin, c'est vrai que les gens ont tendance à mettre finalement leurs déchets dans leur sac et après à les jeter chez eux, etc. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu perçois en fait du système de traitement des déchets au Japon et en quoi tu trouves qu'il y a des choses à améliorer?
Alors en fait, c'est vrai qu'il y a une certaine discipline en fait des habitants par rapport au recyclage. Donc il y a une séparation qui est faite pour tout ce qui est les cans, le PET, parfois le polystyrène, mais en fait et le verre. Mais pour moi, en fait, c'est un peu, tu vois, genre, tu te dédouanes en faisant bien ton petit recyclage, tu caches en fait le problème, en fait. Mais ça change rien au problème que il y a beaucoup trop de consommation d'emballage et qu'en plus, le Japon n'est pas mieux que l'Europe ou les États-Unis en termes d'exportation de ces déchets et de certains déchets donc recyclables aussi. Donc, au final, il y a cet aspect, on fait bien notre devoir, il n'y a pas trop de déchets dans la rue, on fait tout bien, mais en fait, le problème, il est là. Hein.
Petit rétro-pédalage, oui. Avant ta transition, avant ton départ au Japon, on part en Angleterre, où tu travaillais donc dans les cosmétiques. Ouais. Tu peux nous en dire plus en fait, puisque tu es ingénieur de formation et tu es parti travailler dans les cosmétiques. Pourquoi ce choix? C'était quoi ton métier?
Ouais, alors du coup, moi j'étais à la base, quand je suis rentrée chez Procter, j'étais ingénieur développement packaging. Donc j'ai commencé dans le parfum, mais après c'est cosmétique. Et en fait, ça consiste à être un peu l'interface entre le marketing qui vient nous présenter des designs d'un nouveau parfum par exemple qu'ils veulent lancer, et ensuite nous travailler avec les fournisseurs de matériaux, les usines qui vont faire le remplissage, etc., pour en fait trouver la meilleure solution en termes de choix de matériaux, de décoration, tout ça, pour avoir quelque chose qui soit dans les coûts, à la qualité, et puis aussi répondre au mieux au design de la fashion house et du marketing. Donc ça, c'était mon métier. Et en fait, je suis tombée dans ce métier-là un peu par hasard avec une rencontre que j'ai faite au moment du bac où je savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce métier et qui m'en a parlé. Et ça m'a paru intéressant, surtout travailler dans le domaine du luxe, en fait, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est art. Et en fait, j'avais l'impression que travailler autour de beaux objets, sur des beaux projets, ça touchait un peu à ma fibre créative et le fait que j'aimais l'art. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et donc, j'ai fait ça pendant 8 ans à force.
Et tu as fait ça en Angleterre directement? T'es partie en Angleterre après tes études?
Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait un échange pendant mes études, là, l'échange dont je te parlais en Chine, quand je suis rentrée en France, j'ai eu un peu un reverse culture, choc de culture. Choc de culture. D'accord. À l'envers. Et en fait, je me suis retrouvée en stage dans une belle société. Avec des gens qui, je trouvais, de mon point de vue, avaient un mode de vie très privilégié, on va dire. Et en fait, les gens étaient un peu mécontents. Et je revenais de la Chine où il y avait vraiment de la misère. Et les gens, ils avançaient, ils avaient pas la banane, mais tu vois, ils étaient à faire leur truc et tout. Et en fait, je me suis dit, je sais pas si je suis faite pour travailler en France, en tout cas, voilà. Donc, on s'est dit avec mon mari, enfin à l'époque c'était mon copain, bah, le premier qui trouve un stage à l'étranger ou un boulot à l'étranger, ben voilà, on y va quoi. Et puis il se trouve que c'est lui qui a eu un emploi en Angleterre, donc voilà.
D'accord, donc c'est l'occasion qui fait le larron, ouais, un petit peu. Mais tu n'as pas choisi l'Angleterre et Procter, c'est vraiment après que ça s'est dessiné, ouais, de cette manière. Ok. Ouais. Et du coup, quand tu travaillais chez Procter et Gamble, c'était quoi ton mode de vie ? Ça te plaisait ? Bah, tu vois un petit peu où je t'emmène, c'est pour comprendre ce qui a fait que tu t'es interrogé, ce qui t'a poussé à changer.
Alors mon mode de vie c'était assez busy, parce que j'avais quand même 3 heures de transport par jour pour y aller, wow. aller-retour, c'était d'une traite, donc ça allait, tu vois, je pouvais faire autre chose dans le train, mais bon, c'était quand même fatigant à force. Mais en fait, enfin moi j'ai adoré mon travail. J'avais des collègues, enfin adorables. J'ai travaillé avec des fournisseurs, enfin des partenaires vraiment, des gens en or quoi, sur des projets chouettes, tout ça. Donc j'aimais vraiment mon travail et j'apprenais tous les jours. Et j'avais des bons managers en fait à l'anglo-saxonne, qui sont plus là pour te développer. Moi, j'aimais bien un peu développer mes petits projets à côté. Et puis, mon boss, en fait, il me le disait après, il me disait, je savais pas trop où t'allais, mais tu vois, je te laissais faire. Et en fait, au final, après, ça devenait des vrais projets vraiment cool qui, que lui-même mettait en valeur son travail en tant que manager, si tu veux. Donc, c'était vraiment une période où j'ai beaucoup appris. Et puis en fait, ce qui a vraiment changé pour moi, en fait, je t'en ai un petit peu parlé au tout début de notre discussion, c'est quand il y a eu ce rachat, en fait, la culture d'entreprise de Procter, c'était assez paternaliste, mais dans le bon sens, dans le sens où bah, c'était parfois peut-être un peu bisounours, mais je trouvais quand même, on prenait assez soin des employés, et c'est pour ça que tu avais des gens, ils faisaient leur vie chez Procter hein, avant. Et en fait...
D'accord.
Tu trouves, au bout d'un moment, en fait, quand il y a eu ces plans sociaux à répétition, ces restructurations, en fait, j'ai un peu pris une claque sur le vrai monde de l'entreprise, qui est, on est plus des numéros, on est un coût, un budget. Et puis, au bout d'un moment aussi, je savais, moi, depuis le début, je te l'évoquais un petit peu, que j'étais pas faite pour le monde nécessairement de l'entreprise ou faire carrière, tu vois. Je savais qu'un jour j'allais partir, en fait.
Et comment t'as pris conscience de ça ?
On va dire le déclic, ça a été cette proposition d'aller en France qui m'intéressait pas du tout. Donc là, ça a été l'occasion rêvée, tu vois. Mais je savais depuis mes études, je savais que j'allais pas faire carrière dans une grande entreprise. Parce que quand j'étais à l'INSA, j'ai eu la chance d'être dans l'association de la junior entreprise. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, cette expérience-là. Et je m'étais toujours dit, un jour, j'aimerais bien faire monter ma boîte, monter mon projet, tout ça. Et même, en fait, quand j'étais en interne chez Procter, j'étais toujours à faire des... comme je te disais, des petits projets à côté, en limite intrapreneurial, en fait. Et c'est ça qui me faisait kiffer, les premiers moments où tu montes un projet, tu essayes de rassembler une équipe, de former une idée, et ça, c'est ça qui me faisait vibrer, en fait.
Donc, tu avais une fibre entrepreneuriale que tu avais développée déjà très tôt, mais que tu pouvais assouvir chez Procter.
C'est ça. Okay. Et j'avais le sentiment, alors peut-être que je me trompais, que si je bougeais à Paris... j'avais l'impression que j'avais fait le tour de mon poste, que j'avais plus rien à apprendre. En fait, moi, ce qui me drivait dans ma carrière, c'était apprendre des choses. Et c'est ce qui vraiment, la curiosité, découvrir des. Enfin, et j'avais l'impression, en bougeant à Paris, en fait, on allait un peu, il allait avoir un gros rythme, hein, parce qu'il y avait un manque de ressources. Et puis j'allais devoir lancer des projets. Enfin, en tout cas, avec mon équipe, tu vois, ça allait être vraiment, allez, vas-y, sous pression, avec le marketing derrière qui reçoit énormément de pression des fashionos, du coup, qui devient extrêmement désagréable avec toi. et puis mettre la pression aussi à mes fournisseurs pour aller plus vite et réduire les coûts et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, c'est pas de ça que je veux, quoi. Enfin, c'est... Ouais, voilà.
C'est pas ta vie. Bien sûr, c'est pas ta vision du monde, pas ta vision du travail, surtout quand tu disais que tu as connu quelque chose de très, très paternaliste, ou en tout cas une ambiance de travail où les gens prennent soin les uns des autres. Ça doit être oui, un petit peu difficile de se projeter dans un environnement très, on va dire, libéraliste, poussé à l'extrême. Et à ce moment-là, tu avais déjà une conscience écologique, c'est dans ton mode de vie, ou ça s'est développé plus tard ?
Non, ben, pour être honnête avec toi, après, j'ai jamais... Tu vois, j'étais pas gaspillée ou quoi, mais on était plus du bio, mais ça, c'était plus drivé, limite, par mon mari. Et moi, j'étais pas forcément... j'avais pas pris conscience, en fait, qu'il y avait un vrai problème, en fait. J'étais pas dans le déni ou quoi, je pense que j'avais pas... je sais pas, j'avais pas l'information, tu vois. Et ce qui m'a fait un déclic sur la transition, je crois que c'est quand... des rencontres avec des collègues qui sont devenus des amis, des échanges super intéressants. Donc je me rappelle d'une amie qui, elle, était, par exemple, a eu un enfant et s'est mise aux couches lavables. Du coup, on a eu beaucoup d'échanges autour de ça, qui avait fait un jardin partagé. Donc en fait, c'est des rencontres comme ça qui ont semé des petites graines, je pense. Il y a eu aussi pas mal des podcasts que j'ai découverts de Basilic, tu dois peut-être connaître.
Non, mais je vais regarder.
C'était aussi un peu des rencontres avec des gens de la transition. Et en fait, petit à petit, ça a planté des graines en moi. Et un peu la crise que j'ai eue, entre guillemets, au travail, tu sais, un peu quand c'était des périodes pas évidentes de restructuration, en fait, ça a accéléré la chose et ça m'a fait dire, mais en fait, c'est quoi le sens de ce que je fais? Qu'est-ce que je veux laisser comme pas comme héritage, mais ouais, quelle marque je veux laisser quoi dans le monde quoi.
Et vous êtes mis d'accord avec ton mari, comment est-ce que vous avez pris la décision de partir en transsibérien?
Le transsibérien, c'était un rêve depuis 10 ans, 15 ans pour moi en tout cas, et du coup en fait, à la base, on avait envie d'aller en Asie. On s'est dit, c'est l'occasion, faisons ce voyage et puis allons nous poser en Asie, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait y retourner, mais les opportunités professionnelles, le timing, ça l'avait pas fait. On s'est dit, le travail nous emmène pas là-bas, allons là-bas et puis trouvons du travail. Et ce qu'on a fait, donc quand on est arrivé au Japon, pendant un an là, on a fait du japonais tous les deux en intensif. Et puis lui, comme il est développeur, il a eu la chance de garder son travail à distance, en fait. Donc ça nous a permis de financièrement être capable de maintenir d'avoir un appartement et de pouvoir payer l'école. Et puis là, du coup, comme on sait plus au fur et à mesure, tu vois, on se sent de mieux en mieux ici, et ben on a décidé de rester. Et du coup, là, il vient de trouver un travail ici. Donc, et puis moi, je commence à plus développer mon projet pour rester ici. Voilà.
Génial. Et sur un autre sujet, plus côté personnel, quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as annoncé finalement que tu partais en transsibérien, vivre en Asie, faire d'autres expériences? Et même toi, comment est-ce que tu t'es senti le fait de... c'est quand même une grosse décision de dire je quitte un travail qui... même s'il ne m'attire pas énormément, est quand même assez sécurisant, me rapporte au moins financièrement.
Alors déjà, pour la réaction de mon entourage, je dois dire que, en tout cas, j'ai eu mon mari, comme je te disais, qui était vachement à soutenir le projet, qui était à suivre le projet et à me soutenir dans ma décision de quitter mon travail. Complètement. Ma famille aussi, quelque part, j'étais pas surprise, je m'attendais plus à ce qu'ils s'étonnent et tout, mais mes parents, ils ont été, je trouve, plutôt compréhensifs, et je crois qu'ils voyaient depuis quelques mois que moi, j'allais pas bien, en fait, que ça m'affectait moralement, en fait, ce qui se passait au travail. Et donc ils l'ont compris. Après, ils étaient forcément un peu tristes de se dire avant ils étaient en Angleterre, maintenant ils vont partir au Japon, ce sera compliqué de les voir. Donc je sais que ma mère, elle a été
c'est un peu plus loin,
ouais. Mais sinon ils ont été plutôt à nous soutenir, donc ça, c'était chouette. Après, personnellement, moi, comment je me suis sentie? Eh ben, je pense que pas soulagée, mais j'ai eu l'impression que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, tu vois, que j'étais sur la bonne voie. Enfin, en fait, tu sais, des fois, quand t'as une décision super difficile à prendre, et que des fois tu te dis, ah, est-ce que j'aurais dû prendre l'autre décision, ou tu sais, t'es toujours à te demander après coup, est-ce que j'aurais dû faire ça. En fait, là, ouais, quand j'ai eu pris la décision, en fait, intimement, je me sentais alignée, et j'avais le sentiment d'avoir pris la bonne décision, et je me sentais bien en accord avec ma décision. Et ouais, donc c'était plus, ouais, du positif, un peu d'appréhension forcément, parce que tu te lances un peu dans l'inconnu, mais ouais, globalement, positif.
Et aujourd'hui, quand tu parles à tes amis ou à tes parents de ce que tu fais, que t'es un acteur activiste de la transition écologique au Japon, alors qu'avant, tu faisais quand même du packaging pour un gros groupe industriel. Les gens se disent quoi? Waouh, elle a changé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je sais pas trop ce qui se dit. Je pense que quand j'en discute avec mes proches, je pense qu'ils comprennent pourquoi je fais ça et ils trouvent ça plutôt positif. Moi, personnellement, en fait, tu vois, genre, t'as mentionné le mot activiste, et je sais pas encore si c'est un mot avec lequel je me définis, parce qu'en fait, j'ai encore du mal avec ce mot-là, mais j'essaye de faire ma part, j'essaye d'avancer, et je sais d'où je viens. Je viens justement d'un mode de vie que j'essaye aujourd'hui de montrer que c'est pas forcément le bon, mais j'essaye de le faire avec bienveillance. Et moi, en fait, dans le passé, parfois, ce qui m'a pas aidé forcément à toujours comprendre le message, c'était parfois le mode de communication de certains activistes, justement, qui était peut-être dans la violence, et qui du coup a pas résonné avec moi, en fait. Et du coup, moi, j'essaye d'agir à ma manière, en essayant d'avoir un message peut-être plus doux, peut-être plus lent à processer, mais qui peut-être va convaincre des gens qui se reconnaissent pas forcément dans certains discours qui sont peut-être plus tranchés. Donc je reste quand même consciente de, et aussi aujourd'hui je suis pas loin d'être parfaite, donc je continue d'avancer dans ma transition et d'essayer en même temps de rassembler autour de moi les gens qui ont aussi envie de s'améliorer, quoi.
Mais dans une démarche positive, comme tu le dis, pas, enfin, sans pointer, ouais, du doigt, enfin voilà, c'est mal, c'est pas bien, mais plus en disant, regarde, on peut faire autrement, et en fait, on est plus heureux de cette manière, et on se, ouais, sent mieux.
Exactement, exactement, oui.
Génial. Et comment est-ce que tu perçois l'avenir aujourd'hui? Donc, on a un petit peu parlé des projets. T'as envie de faire quoi concrètement? Comment est-ce que tu comptes développer ton projet de transition?
Là, je pense que j'ai trouvé le projet qui me convient. Tu sais, des fois, quand tu avances, même s'il y a des obstacles, tu as l'impression que les rencontres que tu fais ou les choses qui se passent, c'est comme un puzzle, tu vois, qui se met en place. Et j'ai l'impression ce qui se passe avec mon projet. Et donc là, je suis en train de lancer la formation dans quelques semaines, la première formation. Le but, c'est de continuer et de développer plus de formations. Pour l'instant, c'est en anglais. J'aimerais beaucoup pouvoir le faire aussi à court terme en japonais. Donc, trouver quelqu'un avec qui m'associer pour le faire ou améliorer mon japonais pour le faire moi-même, mais plutôt m'associer parce que j'aimerais bien créer une communauté. Et puis peut-être peut-être écrire un livre aussi. Je pense que ça pourrait être un moyen de toucher d'autres personnes au Japon. Donc voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, la transition, ces ateliers, c'est à destination de particuliers ou aussi d'entreprises, d'organisations, d'écoles.
Aujourd'hui, là, dans l'état actuel des choses, je me concentre plus sur les particuliers. Parce qu'avec la situation du Covid, je pense que ça a pas mal impacté les entreprises et elles n'ont pas forcément nécessairement en tête de s'occuper du plan changement climatique et de réduire tout ça, leurs impacts. Je pense qu'elles sont plus dans le mode survie. Donc j'attends un petit peu que ça se calme et de voir un petit peu les perspectives pour l'avenir et puis aussi de repositionner mon offre pour les entreprises, plus en mettant en valeur le côté aussi cost-saving que ça peut apporter, en fait, de minimiser son impact écologique. C'est pas juste des coûts en plus, c'est aussi, ça aide aussi à faire baisser les coûts pour l'entreprise, donc essayer de mettre ça en valeur pour les entreprises. Mais dans un premier temps, ouais, je me concentre plus sur les particuliers.
Et si tu pouvais parler à la Hélène d'il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Est-ce que tu aurais envie de lui dire quelque chose d'ailleurs?
Je pense qu'il y a un truc qui m'a retardé dans mon déclic, peut-être de changer de carrière professionnelle, c'était cette construction que j'avais peut-être mentale de qu'est-ce que c'est que la réussite. Et en fait, je me dirais peut-être, essaye de, ouais, prends le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire vraiment réussir dans la vie, entre guillemets, et qu'est-ce que ça veut vraiment, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi, en fait, plutôt que de vouloir te conformer à une attente de la société ou quoi que ce soit.
Alors, c'est un sujet que je trouve passionnant, si ça ne t'embête pas de creuser un petit peu. Qu'est-ce que c'était la réussite pour toi à l'époque? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et...
Qu'est-ce que c'était la réussite avant pour moi? C'était, par exemple, sortir d'une école prestigieuse, avoir un jour un poste de direction dans une grosse entreprise reconnue. Ça, c'était ma vision de la réussite. Après, tu vois, t'as d'autres choses aussi. Moi, j'avais plus en tête peut-être ce truc systémique autour de la réussite professionnelle. Pour ce qui est de la famille, tu vois, t'as un peu des injonctions aussi, acheter ta maison, acheter une voiture, te marier, avoir des enfants. Ça, j'avoue, avec mon mari, on n'a pas forcément trop suivi ça. Peut-être le fait qu'on était en Angleterre déjà, on n'était pas dans un mode assez traditionnel de vie. Mais ouais, surtout au niveau carrière, c'est ça que j'avais en tête, la réussite. Et en fait, aujourd'hui, la réussite pour moi, c'est d'apporter ma pierre à essayer d'avancer pour un futur qui soit vivable. Je ne sais pas si on va y arriver, mais au moins, tu vois, je me dis, j'aurai pas de regrets. Quand je serai sur mon lit de mort, en fait, je me dirais, j'ai fait de mon mieux, peut-être que ça va marcher, mais au moins, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, et j'ai vécu une vie où je me sentais bien, bien avec moi-même, tu vois.
Et si tu pouvais adresser un message ou des conseils, soit aux étudiants qui aujourd'hui se posent des questions, ou aux gens qui sont plus étudiants mais sont dans des postes un peu comme ceux que tu pouvais occuper avant et qui se posent également des questions, qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Déjà, moi, peut-être je voudrais leur dire en fait de pas quelque part accepter les compromis et d'être un peu égoïste, dans le sens où à partir du moment où la situation dans laquelle t'es elle te convient plus, faut pas chercher à... les gens, ils vont toujours t'essayer de te dire « Oui, mais si tu fais ça, après, t'auras ça. » Ou de négocier avec toi, en fait. Accepte pas les compromis. Si t'es pas heureux, si t'es pas bien, pars, en fait. Ou prépare un plan de sortie, en fait. Tout au long... Et tu vois, ça peut être... Tu vois, moi, je regrette pas mes années, en fait, chez Procter, tu vois. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a donné des outils pour aujourd'hui, tu vois, peut-être... avancer dans ce que je suis en train de faire et peut-être avancer mieux, j'en sais rien. Donc je ne regrette pas. Donc ce que je dirais, c'est prendre toutes les opportunités qui se présentent à soi comme une opportunité d'apprentissage et voilà quoi. D'apprentissage ou de développement personnel. Voilà.
Donc pas de compromis et de rester curieux, ouvert et de continuer c'est à ça. Apprendre.
Et forcément, ça va t'amener vers le bon chemin. Tu vois, si t'adoptes cette mentalité, au bout d'un moment, tu vas remettre les choses en question et tu vois, ça va se mettre en place, quoi.
Eh ben super. Hélène, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter ?
Pas forcément. Si jamais les gens ils ont envie d'échanger autour du voyage notamment, que ne pas hésiter en fait à dialoguer, venir me parler sur le compte Instagram Voyageurs de Demain pour en parler, échanger. Il y a une communauté vraiment sympathique et si vous avez des questions sur des types de voyages, je peux vous mettre en relation avec des voyageurs qui pourront peut-être vous aiguiller. Et tu m'avais aussi demandé peut-être des recommandations. Est-ce que ça, tu voudrais que je te les envoie plus pour que tu les mettes dans un article ?
Non, tout à fait, bien sûr. Si tu as des recommandations de lecture ou autre, oui, bien sûr, hein, parlons-en.
Et ben moi, en fait, tu as parlé de lecture ou autre. Et moi, je vais conseiller aux gens, surtout en fait, les podcasts. Je trouve que c'est un format génial. D'accord. Parce qu'en fait, c'est plus des témoignages, je trouve que c'est plus intimiste, tu as vraiment tout le parcours de la personne, généralement, et tu vois les moments de difficulté, de doute, les réussites, et donc moi, c'est des podcasts qui m'ont énormément nourri, et donc je vais recommander, par exemple, Génération XX, donc c'est sur l'entrepreneuriat au féminin, c'est assez large en termes d'entrepreneuriat. Le gratin aussi, je trouve qu'il est intéressant, pareil pour l'entrepreneuriat, les gens qui cherchent un peu à réinventer leur métier. Basilic, dont je te parlais un peu plus tôt, qui est sur les initiatives positives sur le changement. Et moi, c'est un des podcasts dont un épisode m'a énormément fait un déclic, notamment au niveau de ma transition, où elle avait invité Roxane, qui a le compte Dear Lobbies. Et qui parlait en fait de la pilule et du fait que c'est un gros perturbateur endocrinien. Ça, c'était un gros déclic aussi. Et puis aussi, je conseillerais les podcasts Vécu de Ticket for Change et le podcast Supplément d'âme, qui sont des chouettes parcours.
Eh ben, merci beaucoup, Hélène. Et je te souhaite bon courage avec ton projet et j'espère vraiment que ça va fonctionner.
Merci à toi, Jean-Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !